France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
C'est un nouvel engouement que l'été a rappelé avec force, un engouement pour le naturisme, c'est-à-dire les pratiques de nudité dans la nature, mais pas seulement. Une démarche qui s'articule avec la recherche d'une alimentation saine, végétarienne ou encore le recours aux thérapeutiques naturelles, à la méditation ou au yoga en plein air. Aujourd'hui donc, retour sur cette notion, le naturisme, son histoire, ses critiques, ses pratiques. Dans cette seconde partie de Questions du soir, en partenariat avec l'hebdomadaire Le 1, qui consacre son supplément de la semaine aux questions qui entourent le corps. Bonsoir Julien Bisson.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes le rédacteur en chef du 1. Merci de m'accompagner dans cette interview. Interview ce soir d'Amélie Lavin. Bonsoir Amélie.
Bonsoir.
Vous êtes conservatrice en chef au MUCEM, le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Il se situe à Marseille, je le rappelle, et vous êtes commissaire de cette exposition intitulée Paradis Naturiste, une exposition qui se tiendra jusqu'au 9 décembre. Merci d'être avec nous. Vous nous direz, Julien Bisson, si vous pratiquez vous-même le naturisme. Mais avant, une question. Pourquoi le 1 consacre-t-il son numéro de la semaine au corps?
Eh bien, c'est un numéro qui est conçu en lien avec Aix-Marseille Université, qui fait son festival étudiant dans 10 jours. C'est son festival étudiant de rentrée sur le thème du corps et qui a justifié ce numéro où on se penche sur la façon dont nos corps définissent notre identité ou, à contrario, dont nous tâchons de les modeler pour ressembler à l'idée que nous avons de nous-mêmes. Or, la question de la nudité concentre justement plusieurs de ces questions, de la honte de soi aux injonctions de beauté, d'où l'intervention d'Amélie Lavin dans nos colonnes pour évoquer ce tabou du nu.
Je voudrais vous faire entendre une voix qui a résonné cet été, qui a fait résonner aussi les atouts du naturisme.
Vivons comme on est né, nu. Tout simplement tout nu.
C'est pas du tout pour choquer. Je m'y serais appris autrement, hein, pour choquer. Non, c'était au contraire pour apaiser. J'avais envoyé une cassette de motivation à Thomas Joly, justement en disant mes arguments. Être nu, c'est pour la paix, on peut pas cacher d'armes. C'est aussi une idée de décroissance, hein. On n'est pas obligé d'acheter tout le temps des fringues. Hein, c'est ça que ça veut dire aussi. Un monde vraiment primaire, c'est-à-dire le début de l'humanité, ce serait peut-être le futur de la nôtre.
Et vous avez évidemment reconnu Philippe Catherine et vous avez reconnu Julien Bisson Philippe Catherine puisque vous chantiez nu pendant qu'on l'entendait. Et je vous cède la parole pour une question.
Amélie Lavin, ce que nous dit Philippe Catherine dans cet extrait ou dans cette chanson, il est presque davantage question de lien à la nature par opposition à la culture que de simple nudité. Alors c'est quoi la différence entre le naturisme et le nudisme ?
Eh oui, en fait, merci Julien de cette question parce que c'est la question essentielle. En fait, dans le naturisme, il faut vraiment entendre d'abord le mot nature. C'est une pensée globale, le naturisme. C'est une philosophie de vie. Et son objectif premier, c'est de renouer un lien premier avec la nature. Et en fait, c'est un faisceau de comportements et de dispositifs dont fait partie la nudité. Mais être naturiste, c'est bien plus que ça. On va en parler plus en détail, j'imagine.
On peut
aussi être nudiste sans être naturiste.
Alors expliquez-nous ça, comment est-ce qu'on conjugue les deux et surtout comment est-ce qu'on est l'un sans l'autre ?
Alors, comment est-ce qu'on est l'un sans l'autre ? En fait, on peut tout simplement être nudiste pour des raisons purement hédonistes, parce qu'on aime se mettre nu au soleil pour bronzer, par exemple, dans son jardin. Le naturisme, c'est au-delà de la nudité. En fait, la nudité dans le naturisme, c'est un outil, c'est pas un objectif. L'objectif, c'est de retrouver un lien direct avec la nature, c'est d'opérer une forme de décroissance aussi, c'était très juste en fait ce que disait Philippe Catherine. C'est aussi bien souvent de prôner une hygiène de vie, une alimentation végétarienne. C'est promouvoir une forme de liberté globale en fait et qui ne passe pas donc que par la nudité. Et aussi ce qui est très important, c'est qu'on peut être nudiste tout seul, alors que le naturisme c'est quelque chose de collectif, c'est un projet de vie communautaire. Et donc ça se pratique à plusieurs.
On l'a dit, Amélie Lavin, vous êtes la commissaire de cette exposition qui se tient présentement au MUCEM, qui s'intitule « Paradis naturiste ». Est-ce que ça a été compliqué de monter une telle exposition ? Est-ce que la nudité est encore un sujet tabou ?
Alors, d'abord, je précise tout de suite que je ne suis pas la seule commissaire. Nous sommes 6 co-commissaires et je parle au nom donc de mes collègues. Alors, ça a été facile et difficile à la fois. Facile parce que le projet a été porté avec nous par mon institution, par le MUCEM. Facile d'une certaine manière parce qu'il y avait pléthore de matières à explorer. Mm-hmm. Il faut peut-être rappeler que les pratiques naturistes n'ont jamais fait l'objet d'aucune exposition dans une institution publique en France. À l'étranger, oui, mais en France, ça n'avait jamais été traité. Et alors qu'il y a une matière archivistique, photographique, artistique énorme. Et donc, c'était facile au fond. Il y avait presque trop de matière à traiter. Par contre, évidemment, c'est jamais simple de parler de nudité dans un pays où la question de la nudité reste frappée d'interdiction dans l'espace public. Donc oui, ça, évidemment, ça pose des questions. À la fois d'auto-censure, donc c'est évident qu'on s'est sans aucun doute auto-censuré à plein de moments dans la construction de ce projet. Ça pose des questions aussi de fabrication d'une exposition et d'un livre où il faut vérifier qu'on va jamais courir le risque d'être taxé de pornographie à aucun moment. Et puis évidemment, c'est quand même beaucoup de communication, de médiation, y compris à l'intérieur de l'établissement, de l'institution, et avec nos publics pour qu'il n'y ait pas de méprise en fait sur l'objet et le sujet de l'exposition. Mmh.
Julien Bisson.
Vous dites que c'est un phénomène collectif qui n'avait jamais été traité comme ça dans un lieu muséal. C'est-à-dire que c'est aussi un sujet qui est assez mal connu de la population. Qu'est-ce que c'est le naturisme aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça représente en termes de participants, en termes de géographie ? Comment est-ce qu'on peut le définir, le naturisme français ?
Alors, on peut donner des chiffres qui sont... Il faut les prendre pour... peut-être avec quelques pincettes. En tout cas, les chiffres qui sont donnés, par exemple, aujourd'hui par la Fédération française de naturisme, c'est grosso modo... 4,5 millions de pratiquants en France.
On a été très très frappés collectivement dans l'équipe de l'émission par ce chiffre.
Ah oui, ben oui, c'est beaucoup en fait. En Europe, peut-être 13 millions et 16 millions au niveau international. Bon, voilà, disons que ce sont des volumes, mais ça donne une idée quand même de la masse importante que ça représente. Et alors, ces chiffres... Évidemment, c'est ceux qui sont quantifiés, c'est-à-dire c'est ceux qu'on peut compter, c'est-à-dire des gens qui vont être adhérents à des associations ou à des fédérations, des gens qui vont fréquenter des lieux, institutionnels, quoi, c'est-à-dire donc des assos, des campings, des piscines, des plages officiellement naturistes. Évidemment, ça ne comptabilise pas des pratiques peut-être plus sauvages, alors qui restent difficiles à tenir en France puisqu'elles sont a priori interdites, mais qui peuvent évidemment, qui existent.
C'est peut-être un premier paradoxe qu'il faut pointer, Amélie Lavin. Vous nous avez expliqué que jamais en France il n'y avait eu d'exposition sur le naturisme dans une institution publique. Mm-hmm. Et dans le même temps, quand on s'intéresse un peu à ce phénomène, le naturisme, on se rend compte que la France est peut-être le paradis des naturistes. En tout cas, que ça a été un espace de développement considérable de cette tendance. Comment est-ce qu'on l'explique ? Pourquoi la France est-elle à ce point prisée des naturistes ? Il y a aussi la Suisse, l'Allemagne, les Pays-Bas, vous nous en parlerez peut-être.
Mm-hmm. Ouais. Alors oui, c'est pour ça que l'exposition Paradis naturiste au MUCEM, nous l'avons axée sur ce qui s'est développé en France. Il y a eu quand même une singularité en France dans les premiers temps du XXe siècle et entre les deux guerres, où c'est en fait vraiment structuré. Une pensée théorique naturiste, il n'y a pas qu'en France que ça se structure. Mm-hmm. Par contre, ce qui se passe en France, c'est que vont se mettre en place de véritables communautés avec l'idée de créer des micro-sociétés naturistes qui vont se créer évidemment dans des endroits fermés et particulièrement insulaires, puisque l'île permet effectivement une forme d'isolement en fait par rapport au reste de la société, et que le développement de ces communautés à visée utopiste en fait, hein, il s'agit vraiment de recréer des petites cités. Elles s'accompagnent d'organes de valorisation, de débats, de diffusion qui sont des revues qui vont s'éditer de façon extrêmement importante. Et en fait, ces communautés qui vont se structurer donc très fortement dans l'entre-deux-guerres, elles vont pour certaines donc donner naissance à d'autres, perdurer parfois jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, Héliopolis, qui a été fondée sur l'île du Levant, elle existe depuis le début des années 30 et elle fait partie des communautés françaises connues de façon internationale. Et donc, par rapport à l'Allemagne, en fait, par exemple, où il y a eu les premières expériences, ça commence en Allemagne, les premières petites colonies proto-naturistes, naturistes, végétariennes, anarchistes, elles naissent en Allemagne, mais ensuite elles vont donner naissance à ce qu'on appelle la Nacktkultur, la culture de la nudité, et la Freikörperkultur allemande, c'est-à-dire la culture du corps libre, qui va ensuite infuser en Allemagne de façon très très large. Mm-hmm. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, par exemple, voilà, il y a énormément de la population germanique pratique énormément le naturisme, mais de façon spontanée. À Berlin, vous pouvez croiser des gens qui sont nus dans les parcs, on peut se baigner nu ou bronzer nu en bord de rivière. Voilà, il n'y a pas eu ce passage par la construction d'isola communautaire où on va structurer des lieux très forts. Et tout ça, donc, ça a donné naissance, finalement, après la Seconde Guerre mondiale, à une forme de tourisme, en fait, les infrastructures qui vont devenir de plus en plus importantes sont nombreuses et aujourd'hui voilà on a la poursuite de cette histoire là que il y a beaucoup de voilà c'est facile de venir pratiquer le naturisme en France dans les lieux où c'est autorisé. Donc c'est contradictoire, c'est vrai.
Une réaction de Julien Bisson, notamment sur cette dimension historique.
Oui, on écoute la genèse du naturisme. On aimerait comprendre, vous nous parlez d'une visée utopique, dans quel contexte justement émerge cette philosophie ? Contre quoi, pour quelle valeur ? Qu'est-ce qui va sous-tendre d'un seul coup cette mise à nu collective ?
Mmh. Oui, alors ça s'enracine dans deux mouvements qui se rejoignent. D'abord, la naissance en Suisse et en Allemagne au dernier tiers du 19e siècle d'une pensée sur les médecines naturelles. Les premiers naturistes, en fait, sont des médecins. C'est le moment où on voit la naissance de l'héliothérapie, hein, qui va apparaître d'abord en Suisse et qui arrivera plus tard en France. Et des pratiques qu'on dirait aujourd'hui de médecine alternative, où on va davantage faire confiance aux éléments naturels qu'à une médecine scientifique, positiviste, allopathique, qui prend le dessus, bien évidemment, pendant tout le 19e siècle. Et donc, ces pratiques-là, elles vont d'abord imposer un autre rapport à la nature, enfin, nourrir un autre rapport à la nature, et puis favoriser des petite dénudation, parce que pour exposer son corps à l'air, au soleil, à des bains d'eau, il faut bien se déshabiller un petit peu. Par ailleurs, c'est aussi la naissance de l'hygiénisme. Voilà, on peut le résumer comme ça. Par ailleurs, à la fin du 19e siècle en Allemagne, ce mouvement qui s'enracine aussi dans le romantisme en fait et dans une pensée du paradis perdu. Ces mouvements-là vont rejoindre le mouvement de réforme de la vie, la Lebensreform allemande, qui est un mouvement de révolte sociale qui réagit à l'urbanisation et à l'industrialisation très forte qu'a connue l'Europe et l'Allemagne de façon très dense et très intense en particulier. Et donc, réaction qui va prôner un retour à la nature, une sorte de mouvement de décroissance en fait. Un intérêt pour le végétarisme et donc qui rejoint les préoccupations thérapeutiques dont je vous parlais à l'instant. Donc voilà, ça naît vraiment aux confins de toutes ces idées-là.
Je voudrais qu'on fasse, Amélie Lavin, avec vous un bond dans l'histoire et qu'on se dirige vers 1974 en écoutant un son, le micro-trottoir aux abords d'une piscine, celle de Deligny.
Est-ce que vous savez que dans cette piscine, les femmes se baignent les seins nus ?
Non.
Si ! Mais je vous affirme que les femmes se font
c'est
bronzer.
C'est pour ça qu'il y a tant de monde ici qui regarde.
C'est possible.
Oui.
Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, en 1974, les femmes ont les seins nus dans cette piscine ?
Non. Je vais vous dire, à mon âge, ça ne me ferait plus aucun effet de la prendre.
Non, mais enfin, ça ne vous choque pas quand même, sur le plan de la pudeur ?
Oh, mon rien, ça ne me choque absolument pas.
Vous savez que sur les plages du sud
c'est
de la
France... C'est pas une question de retour en arrière. Ça, c'est ridicule. Il y a beaucoup de plages où on n'est pas permis de faire des bêtises comme ça, je trouve. Qui est-ce qui va tenir le monde en place si tout est permis ?
Beaucoup de choses sont dites, Amélie Lavin, par ces passants. Oui. Peut-être que, première question, première réaction, est-ce que le corps du naturiste, est-ce que c'est un corps désexualisé ?
Alors, oui et non. Non, parce que c'est un corps et que à un moment ou à un autre, la plupart des corps ont une sexualité. Mais oui, c'est un corps désexualisé parce qu'en fait, il est important de, sur le plan intellectuel, éthique et juridique, de faire la différence entre le naturisme et enfin la nudité naturiste et la question de la sexualité, parce que en fait le évidemment que dans les communautés naturistes comme dans toute forme de communauté la sexualité est présente, mais elle ne l'est pas davantage parce que les corps sont nus et en fait la recherche de liberté finalement fondamentale qui est au cœur de la et de ce lien avec la nature qui sont au cœur de la pensée des philosophies naturistes. Elle ne sexualise pas le corps. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, ça vient réfléchir au naturisme. Ça permet vraiment de réfléchir à notre rapport au corps et à la façon que nous avons, en Occident, pas que en Occident, de sexualiser systématiquement la nudité. Il se trouve que... Pardon, ouais, allez-y.
Julien Bisson.
Est-ce que cette liberté face à la nudité, est-ce qu'elle est la même pour les hommes et pour les femmes ? Ou est-ce que les injonctions de genre persistent encore, y compris dans les centres naturistes ?
Alors, aujourd'hui, tous les témoignages que nous avons recueillis et qui sont recueillis par les chercheurs et chercheuses qui travaillent sur les questions naturistes vont dans le même sens. C'est-à-dire, depuis peut-être une dizaine d'années... il y a vraiment une libération en fait des y compris pour les femmes des injonctions corporelles très fortes que font peser nos sociétés sur nos corps et qui passent aussi par effectivement une oralisation du fait que dans les lieux naturistes on est moins gêné par le regard des autres. On est moins jugé, jaugé, les corps ne sont pas comparés les uns aux autres, que les barrières sociales tombent et que, alors c'est beaucoup les femmes qui verbalisent ça, qu'elles se sentent libérées de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une forme de male gaze, quoi. Mais c'est très présent.
Male gaze, on traduit, c'est le regard masculin.
Oui, voilà, pardon.
Julien
Mais
Bisson.
Par contre, c'est récent tout ça, c'est pas du tout ce qu'on peut constater avant dans l'histoire du naturisme, qui va être quand même beaucoup plus normative.
Vous parlez des barrières sociales qui tombent. Quand on écoute les paroles de la chanson de Philippe Catherine, qui on évoquait tout à l'heure, il dit ceci, « Plus de riches, plus de pauvres, quand on redevient tout nu, qu'on soit slim, qu'on soit gros, on est tout simplement tout nu. » Mais est-ce que ça aussi, ça se vérifie dans les espaces naturistes ? Est-ce qu'on se libère vraiment des injonctions sociales une fois qu'on s'est dévêtu ?
Ben, j'aurais tendance à dire oui. Alors évidemment, il faut peut-être... ne pas faire de généralisation totale, universelle, quoi. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, Philippe Catherine résume très bien l'esprit naturiste. Il y a cette espèce de contrat social, en fait, qui se passe entre pratiquants, pratiquantes dans les espaces naturistes, où une fois le vêtement tombé, Voilà, il y a quelque chose qui se, il y a une forme de d'échapper en fait à l'espace social ordinaire. Mais alors,
pardonnez-moi, je vous coupe, vous êtes à distance. On a quand même du mal à croire, Amélie Lavin, que la différence entre les corps de riches et les corps de pauvres, que ces différences sociales-là disparaissent à partir du moment où on met les corps nus dans la lumière, non ?
Alors, elles disparaissent pas, mais par contre, elles très très clairement, elle joue moins de manière pesante et elles permettent quand même davantage de cohabitation. Mais ça n'empêche pas qu'à l'intérieur des communautés, il y a des petites communautés qui se recréent, évidemment. Ça, c'est sûr qu'il y a des groupes dans les groupes et donc sans aucun doute des reconstitutions. De jeu social, il faut pas être complètement naïf non plus. Mais disons que c'est pas faux quand même ce que formule Philippe Catherine. En tout cas, là aussi, si on réfléchit en anthropologue ou en sociologue, c'est ce qu'on observe, ce qui est rapporté par beaucoup de témoignages. Donc il y a une forme d'efficacité quand même là-dedans quoi.
Julien Bisson.
Il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'il y a une forme de retour de la pudeur, y compris et notamment sur les plages françaises. Est-ce que c'est contradictoire avec l'essor du naturisme ou au contraire, est-ce que ça s'explique assez logiquement ?
Alors, ça c'est difficile de répondre parce qu'il faudrait observer un peu sur la durée ce qui va se passer dans les années à venir. Peut-être que l'explosion, je sais pas si on peut vraiment parler d'explosion, mais en tout cas l'engouement actuel qu'on constate pour les pratiques naturistes, il est aussi lié à c'est pas que le phénomène post-Covid, mais ça en est un des symptômes, à un besoin de changement de vie, de reconnexion à la nature, de vivre son corps autrement, etc. Bon, c'est pas que la nudité. Alors ensuite, peut-être que effectivement le retour de cette pudeur qui est réelle que vous mentionnez et qui fait que par exemple on entendait cette femme qui parlait des seins nus tout à l'heure, la pratique du topless sur les plages qui était ultra habituelle en fait quand moi j'étais enfant par exemple et qui est devenue beaucoup plus problématique en fait sans qu'elle soit interdite sur les plages. Mais socialement, on sent que les regards sont plus pesants et que c'est plus compliqué. Ça pourrait aussi être un des facteurs qui, progressivement, inciterait un certain nombre de gens à venir fréquenter des lieux où c'est possible sans regard déplaisant ou, voilà. Mais je pense qu'il faudra un peu plus de temps pour observer si ces phénomènes-là s'installent dans la durée.
Qu'est-ce qui menace le plus aujourd'hui, Amélie Lavin, le naturisme ? Est-ce que ce sont les fausses idées qui l'entourent ? Et la première d'entre elles, c'est peut-être que le naturisme est lié au libertinage avec tout le fameux imaginaire qui entoure le Cap d'Agde et ce type de tourisme-là.
Ah oui, alors bon, il y a plusieurs choses qui menacent le naturisme. Alors c'est vrai qu'il y a l'association au libertinage via le Cap d'Agde qui est... Bon, en fait, c'est le lieu le plus massif. En fait, c'est énorme. Le Cap d'Agde, c'est une ville dans la ville. C'est une énorme destination touristique. Et effectivement, il y a cette coloration avec les communautés libertines et l'hypersexualisation, pour le coup, d'une grosse partie du Cap d'Agde, qui déplaît d'ailleurs à beaucoup de naturistes qui considèrent que ça ternit l'image du naturisme ou que ça la colore d'une façon trop sexuelle. Mais alors ça, bon, je dirais que c'est peut-être une question d'imaginaire qui fait qu'effectivement, quand je parlais de la préparation de l'expo, parfois les gens ricanent ou voilà, on voit bien qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Mm-hmm. Mais il y a aussi quand même un intérêt que moi j'ai beaucoup senti et qui dit aussi que quelque chose quand même peut-être frémit dans la société. Ce qui menace beaucoup plus de façon très concrète pour le coup les communautés naturistes qui restent fragiles en fait. Ce qui les menace beaucoup plus, c'est l'extension, enfin la spéculation immobilière et le fait que un certain nombre de lieux naturistes et parmi les plus anciens sont, ben, donc on l'a dit, des petits paradis, des lieux qui n'ont pas été forcément énormément bâtis, qui n'ont pas fait l'objet donc de spéculation immobilière et qui vont intéresser des fonds de pension par exemple. qui sont parfois en train de racheter des territoires et donc des lieux naturistes qui vont peut-être disparaître.
Question courte de Julien Bisson et réponse très très courte, Amélie Lavin, il nous reste 30 secondes.
Vous disiez qu'il y avait 4,5 millions de Français qui pratiquaient le naturisme, ça peut être tout le monde, nos voisins, nos collègues, notre famille. Est-ce qu'on s'en cache? Ou est-ce qu'aujourd'hui d'être naturiste, ou est-ce que c'est accepté socialement?
Ça dépend, mais c'est accepté de plus en plus. Et il y a une forme... En fait, le naturisme aide vraisemblablement à l'estime de soi. Et donc, ça va de plus en plus avec une affirmation progressive.
Merci beaucoup, Amélie Lavin.
J'ai répondu rapidement.
C'était rapide. Merci beaucoup. En tout cas, on recommande cette visite au Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, le MUCEM, cette exposition intitulée Paradis Naturiste. C'est jusqu'au 9 décembre à Marseille, évidemment. Et pourquoi faut-il se procurer le magazine Le 1 cette semaine, Julien Bisson?
Eh bien, pour tout savoir justement sur les injonctions qui sont faites à nos corps et la façon dont on peut redéfinir notre identité à travers l'expression corporelle.
Merci à tous les deux et un immense merci à toutes celles et ceux qui font cette émission avec moi. Stéphanie Villeneuve, Florian Lecalvez, Fanny Richeux, Bertie Bourdon, Roxane Poulain et Mathias Mégy à la réalisation. François Richet et aux manettes, Olivier Arnay.
Vous écoutez France Culture.